Je vais tout de suite laisser la parole à Natalia Mucznik, donc vice-présidente de l'école des hautes études, qui représente donc le président qui est retenu au ministère de l'enseignement supérieur. Donc je vais laisser la parole à Natalia tout de suite.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc le président, effectivement, Romain Huret, qui comptait vraiment être là pour rendre hommage à Sylvie Anne, malheureusement a été appelé un peu de manière imprévue au ministère, comme ça arrive parfois. En tout cas, il m'a dit de remercier vivement Sylvie Anne. En sachant que évidemment elle va rougir parce qu'elle est toujours très modeste, Sylvie Anne. En tout cas, de la remercier évidemment de tout ce qu'elle a fait pour les étudiants, mais pas simplement de son investissement à l'école. De manière institutionnelle, avec des doctorants à tout point de vue, mais je pense que ce sera évoqué notamment peut-être à travers le moment Furet, donc l'investissement au-delà des études vives de Sylvie Anne. Peut-être aussi d'insister sur le fait qu'elle s'est toujours efforcée de décloisonner les études vives, de vraiment de montrer les liens, de montrer toute la pertinence de ses études. Alors il s'il avait été là, il m'a dit qu'il aurait posé la question du sens des études, des studies, etc. Donc cette question est posée. Peut-être qu'à la fin, puisque on reviendra, on discutera à la fin, je te la reposerai à la fin de la journée, hein. Je vais garder toutes ces questions toute la journée pour te les poser à la fin. Le remercier évidemment, donc poser cette question-là et vous remercier évidemment Mathias Cedrévus et David Nebano pour leur activité et pour avoir organisé cette journée qui, je pense, parce que je me souviens, on en avait discuté au départ en se disant que Sylvia n'apprécierait pas forcément toute une journée de gens qui la glorifient, mais qu'elle s'intéresserait au contraire, à l'idée d'avoir de vraies discussions, un vrai dialogue, quelque chose qui fasse avancer la science, quelque chose qui lui ressemble. Et je trouve que vous avez vraiment réussi parce que, ça donne vraiment envie d'écouter. Et je pense que ceux qui écouteront, je remercie Academ qui est ici pour enregistrer la journée parce que j'ai reçu des mails de personnes qui étaient, pas forcément à voir avec les étudiants, mais qui étaient vraiment intéressées de suivre cette journée, mais qui pourront le faire ensuite. Donc je vous souhaite donc au nom du président une très bonne journée de discussion et j'ai hâte, en ce qui me concerne, de vous écouter tous et d'écouter les discussions. Merci à toutes deux et merci à tous.
Merci beaucoup Natalia de cette ouverture. Comme vous l'avez vu, et on y reviendra, le programme a subi quelques modifications de toute dernière minute, et donc on précisera un petit peu le déroulé à jour. Juste avant, on vous propose une brève introduction à deux voix, David et moi-même, pour introduire donc cette journée d'études. Et je commencerai par tout simplement une remise un peu en perspective. 145 ans après la fondation à Paris en 1880 de la Revue des études juives et quelques temps auparavant de la Société du même nom, intitulée « Une journée, les études juives, une science sociale », affublée d'un point d'interrogation un peu énigmatique, peut sembler à tout le moins paradoxal, sinon un brin provocateur. Ce point d'interrogation peut en effet laisser penser à une forme d'instabilité conceptuelle et partant institutionnelle de la notion même d'études juives. Dit autrement, les études juives appartiennent-elles bien à ce vaste domaine des sciences sociales? Cette question peut apparaître bien anachronique, et elle l'est d'une certaine manière, mais gageons que l'accueil qui est fait aujourd'hui à cette journée d'études, par la maison mère des sciences sociales, l'école des hautes études en sciences sociales précisément, permettra de dissiper tout malentendu éventuel. En posant une telle question, nous avons bien conscience de la résonance toute française d'un tel débat. Vu de loin, la France, qui déjà en 1880 cherchait à rattraper le retard pris dans le domaine des études juives par rapport à l'Allemagne, et il suffit de se reporter à l'éditorial de Zadok Khan dans le premier numéro de la Revue des études juives pour s'en convaincre, la France semblait se retrouver un siècle plus tard, à l'orée des années 1980, dans une position qui apparemment pourrait être similaire, troquant entre-temps l'Allemagne pour les États-Unis d'un côté, Israël de l'autre. Mais les apparences sont trompeuses. La singularité du renouveau des études juives dans le bouillon de contexte des années 70 et 80 tient à une conjonction de facteurs et à une dynamique qui lui sont propres et j'espère, et nous espérons que la journée d'aujourd'hui permettra d'éclairer ces dynamiques de ce moment, résumé dans le moment Furet, mais évidemment qui dépasse le moment spécifique lié à la personnalité de François Furet. Interroger la place des études juives au sein des sciences sociales revient pour une part, on l'aura compris, à questionner la place de ce domaine de recherche au sein de la recherche académique française. Plus subtilement, elle revient aussi à éclairer ce paradoxe français sur lequel, je pense, nous reviendrons. Tandis que les études juives continuent d'apparaître, selon la nomenclature ministérielle, au mieux comme une discipline rare, les difficultés et les défis auxquels se confrontaient les Juifs de France, avant comme après le 7 octobre, d'une certaine manière, sont tout sauf rares. Le titre de cette journée d'études, vous l'avez compris et ça a été dit par Natalia en introduction, comporte un sous-titre qui en éclaire à la fois le périmètre et l'ambition. Hommage à Sylviane Goldberg. Difficile pour moi d'exprimer l'ampleur de la dette envers Sylviane Goldberg, dont j'ai eu la chance d'être le doctorant et avec qui, depuis la soutenance de ma thèse, je n'ai jamais cessé d'échanger en réalité, tant sur les études juives que sur le reste. Mais au-delà des hommages à la personne, et je sais que à la personne, à la chercheuse, à l'enseignante, mais aussi à l'ami, hein, pour un certain nombre d'entre nous ici, et je ne doute pas donc que les interventions qui se succéderont en seront émaillées de ces hommages, cette journée d'études voudrait aussi tracer les contours d'un portrait en creux, d'un cheminement intellectuel, où les objets de recherche, on a, à David va y revenir, mais on en a pris quelques-uns parmi de nombreux objets de recherche, mais évidemment la question de la temporalité dans les mondes juifs, la question de l'interdisciplinarité, des transferts culturels parmi de nombreux autres, croisent des destinées personnelles, des rencontres qui ont fait à leur manière de l'école un lieu pour les études juives. Je commence déjà un petit peu à répondre à la question du colloque. Et des rencontres, il y en a eu beaucoup, considérablement, et avec Davidé, très récemment, nous avons pu consulter, commencer à explorer le fonds qui a été déposé par Nancy Green aux archives donc au campus Condorcet, hein, où se trouvent les archives de l'EHESS. Et les correspondances nous montrent toute la, comment dire, l'effervescence et le nombre vraiment très important de chercheurs qui ont contacté, qui sont venus par l'école et qui ont fait de Paris finalement pendant voilà un temps tout à fait important. The place to be, d'une certaine manière, entre peut-être les États-Unis d'un côté, Israël de l'autre, et d'autres pôles, évidemment, je pense en Europe, sur les études juives. Alors, si certains correspondants dans ces correspondances bénéficient d'un traitement à part, et à commencer par le Primus Inter Pares, Yosef Yerushalmi, qui a une feuille, une chemise à part au sein de ses archives, d'autres figurent aussi, hein, et permettent de constituer une sorte de constellation autour de ces études juives à Paris. Je finirai juste par une anecdote personnelle. Enfant, les livres de sciences humaines de la bibliothèque de mon père me fascinaient. Il y en avait un, qu'il avait reçu d'ailleurs en cadeau, dont la couverture m'effrayait un peu. C'est celui-ci que j'ai repris. Il s'intitule « Olam ». Avec une couverture voilà, qui enfant, me faisait peur, mais dont le contenu est tout à fait intéressant. Et ce n'est que très tard, je dois dire, je dois l'avouer, que j'ai ouvert et découvert que l'appareil critique avait été composé par une personne nommée Anne-Sylvie Goldberg dans l'ouvrage. Bon, ça a été corrigé dans les éditions ultérieures. Et j'aimerais juste finir mon propos introductif par une citation, un peu longue, je m'en excuse, tirée de ce livre. Et donc, il y a une citation de Sylviane Goldberg, vous l'avez compris. L'histoire des Juifs est d'un abord délicat. C'est pourquoi elle a souvent été réduite à celle de l'antisémitisme. Plus simple à retracer, car en engageant à considérer que les Juifs vécurent en parfait isolat, sans jamais nouer de contact avec leur environnement, elle permet d'éviter de s'interroger sur d'éventuels échanges. Si l'on prend pour repère les premières vagues destructrices, qui donnent l'occasion de dater les soubresauts de l'histoire, on pourrait ébaucher une histoire des Juifs en Pologne à partir de 1648, se déroulant sans rupture, depuis la première partition du pays jusqu'à nos jours, en passant par l'hitlérisme. Or, si l'histoire de l'antisémitisme laisse échapper des pans entiers de civilisation, quelle catégorie descriptive devrait-on retenir pour faire l'histoire des Juifs? L'abord religieux permet-il une approche plus complète? Mais alors, comment exclure les développements généraux des sociétés occidentales pour n'en considérer que les aspects spécifiquement juifs? Toute étude des minorités ne saurait être aboutie sans tenir compte de la société majoritaire dans laquelle elle évolue. De sorte que pour parvenir à une véritable histoire des Juifs, il est nécessaire d'unifier au sein d'une même analyse l'histoire de ces pays à la leur. Ce sont sans doute ces difficultés qui expliquent l'embarras suscité par l'histoire des Juifs en général, de même que l'absence de tout enseignement universitaire en la matière, dans l'Hexagone, comme dans la majorité des pays européens qui accueillirent ce peuple apparemment sans histoire. Voilà, je trouvais cette citation un peu longue, mais tout à fait éclairante pour introduire cette journée qui est, vous l'avez compris, à la fois une journée de réflexion et d'échange sur les études juives en France, mais aussi une journée d'hommage à Sylviane Goldberg. Je laisse la parole tout de suite à David.
Et à mon tour de vous remercier pour être là. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir à l'EHSS pour cette journée. Je remercie tout d'abord Sylviane Goldberg pour nous avoir accompagnés dans cette tâche très difficile de constituer en fait le programme très intense, je pense très dense de cette journée. Et je remercie tous les intervenants qui ont accepté de venir avec un grand enthousiasme partager leur savoir et ici. Je remercie le président de l'EHSS et je remercie Natalia pour avoir pris la parole à sa place, l'OCRH, la direction du Centre de recherche historique notamment, notre groupe, le groupe d'études juives, et aussi je remercie la Fondation du judaïsme français qui nous a accordé une subvention pour donc permettre à cette journée de se tenir. Et entre autres, je tiens beaucoup à remercier Nadja Vukovic pour l'organisation, pour nous avoir énormément aidé dans l'organisation vraiment matérielle de cette journée. Merci, Nadja. Nous avons pensé cette journée en hommage à Sylviane comme une occasion de travail pour revenir sur les thèmes de recherche qui lui sont particulièrement chers et plus généralement pour permettre un moment de, comme le disait Mathias, de réflexion, de à la fois de bilan et de discussion sur le développement qu'ont connu les études juives en France et dans le monde ces 40 dernières années. Le programme donc reflète cette double volonté de reprendre des thèmes majeurs, des thèmes spécifiques et d'aller interroger l'ensemble de l'entreprise de l'histoire des Juifs comme nous la concevons aujourd'hui. Sylviane a offert par ses nombreuses études une contribution majeure à la façon dont nous abordons aujourd'hui l'histoire des Juifs et à la méthodologie qui soutient ce grand travail. Je fais juste un exemple dans un ouvrage collectif pas très connu, c'est Les études juives en France de 1990. Elle rapproche le travail de l'histoire de l'historien des Juifs du travail de l'ethnologue. Et reconstituer les passés juifs y est présenté comme un véritable défi à cause de la rareté des sources, relative des sources, et de la perte, surtout de la perte des structures traditionnelles de la vie juive communautaire suite à l'émancipation. Et elle y écrit, en abordant une recherche, l'historien s'immerge donc dans une culture qui n'a plus cours. Et c'est une phrase qui est absolument très pertinente, très importante. Et pour introduire cette journée, j'ai pensé aussi à un passage tiré de son ouvrage le plus connu, peut-être la Clepsydre. Mais c'est une bonne façon de commencer notre journée en lisant donc des extraits de l'œuvre de Sylviane. Et c'est un passage qui me semble bien représenter son œuvre, qui témoigne de, au moins, comment je comprends son œuvre, et qui témoigne de cet engagement qui est le sien en direction des enjeux méthodologiques, je stresse ça, avec une attention donc portée tant sur le regard que l'on porte sur les Juifs que sur les enjeux de l'histoire juive en soi et sur les défis de son écriture. Donc le passage porte sur la temporalité, bien évidemment, sur les rapports très étroits entre passé et présent, de la vision de l'histoire propre au monde juif traditionnel. Un aspect que je considère central et au cœur du travail en études juives. Là, le passage, c'est au premier volume de la Clepsydre, et c'est sur la pluralité des temps dans le judaïsme, page 32. L'observation de la société, que la société juive ne demeure pas figée, bien qu'elle perpétue les énoncés de ce texte fondateur en les réinsérant continuellement dans ces évolutions, pourrait presque révéler du sang commun. Cette vitalité l'empêche également d'échapper aux transformations générales des sociétés qui l'environnent. Cette façon d'agir, par l'usage de l'injection continue du passé dans le présent, introduit une dynamique paradoxale du perpétuel et du permanent dans les changements qui ne peut qu'intriguer quant à son rapport à la temporalité. Il serait aisé d'y voir, sans chercher plus avant, l'un des traits caractéristiques des sociétés traditionnelles, telles qu'Elmiser, Eliade et Aaron Gourevitch les ont désormais classiquement décrites. Pourtant, le modèle cyclique des anciens ou celui linéaire des modernes coexistent apparemment sans heurts dans une temporalité qui se rebelle face aux normes d'appréhension habituelles. Je m'arrête là, je voulais lire un peu plus, mais je ne vais pas prendre trop de temps. Et je pense que c'est un passage très, très éloquent et Sylvia nous ramène aux interrogations finalement qui sont au cœur du travail de l'historien, aux défis auxquels il doit se confronter, au travail ardu de jonction entre histoire interne et externe des Juifs, au travail donc de déconstruction et de reconstruction entre traditions historiques différentes. Et pour lui rendre hommage aujourd'hui, nous avons choisi de nous concentrer, comme le disait déjà Mathias, sur les concepts, le thème de recherche sur lesquels elle a focalisé la plupart de ses travaux, concepts, périodisation, temporalité, transfert culturel, tous au pluriel, hein, pour signifier donc la diversité des trajets d'un peuple dans l'histoire. Mais tout d'abord, la matinée aura un moment, une keynote speech, par Carsten Wilke, que je remercie d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Et tout de suite après, un dialogue introductif entre Nancy Green, Dominique Schnapper, Sylvain Goldberg et Jacques Revel. Je présente Carsten et je l'invite à s'installer ici pour la keynote. Carsten Wilke est professeur au département d'études historiques de la Central European University. Il enseigne l'histoire religieuse et l'histoire juive du Moyen-Âge au présent. Et il est en formation en études juives de l'Université de Cologne et de l'Université hébraïque de Jérusalem. Il a aussi un diplôme d'études religieuses de l'École pratique à Paris. Et sa recherche se focalise sur les aspects transnationaux de l'histoire juive européenne et avec un focus sur les relations judéo-chrétiennes, sur l'histoire de l'historiographie, sur l'histoire du livre hébreu. Et il est un grand spécialiste du judaïsme séfarade et de crypto-judaïsme ibérique à l'époque moderne. Et nous avons la chance d'avoir l'un de ces ouvrage en traduction française, c'est son histoire des Juifs portugais, qui a été édité par Chandaigne en 2021. Et Carsten nous a proposé donc une keynote qui a pour titre « Les études juives en France au regard de la recherche mondiale ». Je le remercie beaucoup et je vous laisse la parole. Merci.
Je remercie les deux organisateurs de m'avoir aimablement invité à parler pour rendre hommage à Sylvian Goldberg. Je suis persuadé que cette occasion mérite un titre quelque peu pompeux, et j'ai donc parlé de recherche mondiale, mais en réalité, mon intervention s'appuiera plus modestement sur mon expérience subjective en tant que professeur dans une université internationale de Budapest, puis de Vienne, et sur mes souvenirs personnels depuis ce temps déjà éloigné, où, étudiant en doctorat, je suis arrivé d'Allemagne à Paris en décembre 1988 pour étudier à l'École pratique des hautes études, attiré par le renom de Colette Sirat, de Gérard Naon et d'autres élèves du grand I.S. Reva. À cette époque, mais justement dans l'autre sens, le livre « Les deux rives du Jabok » arriva de France en Allemagne et obtint un assez bon accueil. Il faut expliquer que les études juives en Allemagne étaient alors une discipline philologique et les jeunes hébraïsants de ma génération se rendaient utiles en traduisant des inscriptions tombales. Pour des raisons connues, l'Allemagne ne possède guère de synagogues historiques et l'essentiel du patrimoine juif se compose justement des cimetières. On a ainsi la mission impossible en quelque sorte, de reconstituer la vie juive à partir de ces espaces. Et de ce fait, un livre qui explorait les croyances, les émotions, les rites et les lieux, tout le tissu social qui s'établit autour de la mort, à travers les coutumes funéraires, devait être extrêmement bienvenu. C'était pas facile de se le procurer. M'a-t-on dit. Même pas au collège des études juives à Heidelberg. Il fallait connaître un libraire, faire un virement franc français, attendre, insister auprès de la bibliothécaire, puis se relayer pour lire ce livre en réactivant son français de lycée. Mais l'attente ne fut pas déçue. On a appris beaucoup de Sylviane Goldberg, notamment un certain manque de respect pour les frontières disciplinaires. Bien sûr, elle lisait le traité hébreu de Rabbi Aaron Berachia, mais elle se faisait anthropologue sociale quand c'était nécessaire. Il fallait bien une élève de Philippe Ariès pour nous l'enseigner. Bon, direz-vous, c'était juste un bon livre arrivant au bon moment. Y a-t-il lieu de spéculer sur les relations entre la France et les foyers voisins des études juives? En 1990, Frank Alvarez Pereire et Jean Baumgarten ont publié les actes d'un colloque intitulé, vous l'avez mentionné, « Les études juives en France, situation et perspective ». Et la grande majorité des collaborateurs, dont Sylviane Goldberg, ont refusé de se livrer à cette quête d'une épistémologie proprement française des études juives que les organisateurs leur demandaient. Les études juives en France ne se provincialisaient pas. Je vous prie de me comprendre si je vais tout de même m'engager dans cette voie, tant la révolution intervenue pendant ces 40 dernières années paraît d'envergure. Alors, que nous achetons des livres étrangers maintenant d'un simple clic, nos étudiants n'ont plus l'air de s'enthousiasmer pour des livres en français. Récemment, j'ai parlé avec une de nos meilleures doctorantes, une doctorante à NYU, élève des meilleurs centres d'Holocaust Studies, américains, israéliens et polonais, puis de notre université. Je lui ai demandé donc si elle connaissait la revue d'histoire de la Shoah. Et elle m'a répondu qu'elle n'était pas sûre de l'avoir jamais vue. De toute façon, elle ne lisait pas le français, et ce qu'elle avait pu lire des collègues français en d'autres langues lui avait paru superficiel et sans originalité. Pour les jeunes, la France a ainsi disparu de la map monde des études juives. J'ai poursuivi mon enquête orale la semaine dernière quand j'ai croisé en bibliothèque le doyen des études juives en Autriche, Günther Stemberger. Le même Stemberger que mon regretté maître Bernard Roussel à la 5e section mentionnait lorsqu'il voulait couper court à un problème de littérature rabbinique, regardez cela dans le Stemberger. J'ai donc demandé à Monsieur Stemberger son opinion sur la production récente de l'Hexagone en études juives. « Ah, m'a-t-il dit en souriant, ça s'est calmé. » J'ai objecté poliment encore en 2021 qu'Atel Berthelot avait remporté le National Jewish Book Award aux États-Unis et qu'on pouvait difficilement faire plus fort que cela. Mais j'ai senti que de tels faits étaient insuffisants pour nier un certain déclin de prestige. Et déjà, Yosef Chaim Yerushalmi, dont les entretiens fascinants que Sylviane Goldberg a réalisés et publiés, se réclame de Lucien Febvre comme d'un modèle admiré. Il cite Jacques Derrida et Paul Ricoeur, mais n'évoque jamais la France parmi les milieux actuels où l'on fait l'histoire juive. Tandis que la francophonie officielle se livre encore à quelques combats de repli, l'attitude des chercheurs français me rappelle de la maxime de Rimbaud. Il faut être absolument moderne. Les chercheurs sont donc devenus des parfaits anglophones, ici en France, et pas du tout contre leur gré. Sylviane Goldberg a été pionnière. Les deux rives apparues à Berkeley en anglais comme si c'était sa langue naturelle. Et dès l'aube du XXIe siècle, Gad Freudenthal m'expliquait les nouvelles règles. Les articles, les conférences, même les courriels s'écrivent toujours en anglais. Le français est réservé aux conversations de café. Le formidable succès de l'internationalisation des études juives en France s'est manifesté au grand jour lors du 10e congrès de la European Association of Jewish Studies, organisé à Paris en 2014 par Judith Olsovi-Schlanger. Ce monde anglophone et sans frontières fut perçu comme normal par nous tous, sauf par ceux peut-être qui, comme moi, se souviennent encore du multilinguisme qui régnait à Troyes en 1990. Dorénavant, les chercheurs et les projets auront fait le tour du monde avant que leurs résultats voient le jour en langue française. Ainsi, l'archéologue israélien Israël Finkelstein et le professeur Thomas Römer du Collège de France annoncent une étude conjointe sur l'histoire du Pentateuque d'une manière très typique. Les deux acteurs de ce volume ont entamé depuis plusieurs années un dialogue entre archéologie et sciences publiques. Et ces livres présentent quelques résultats de cette collaboration. Il s'agit d'une collection de 6 articles traduits de l'anglais signés Paris-Tel Aviv. Il serait absurde de vouloir qualifier l'ADN français qui subsiste dans ces sources. Il n'y a pas de province particulière de la France dans les études juives mondiales. Si les chercheurs de France sont invisibles, l'explication est simple, ils se sont fondus dans ce monde transnational et transdisciplinaire de langue anglaise. Et cette évolution est manifestement irréversible, mais elle ne devrait pas nous faire oublier des modes de pensée contextualisés et localisés qui consistent dans les contacts institutionnels réguliers. Et je sais depuis 40 ans que la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle et le soutien que son équipe offre aux chercheurs confèrent une singularité aux études juives à Paris. La même chose pour la Société des études juives, pour la nouvelle Galia Judaica active au centre de Montpellier depuis 2003. La même est vraie pour cette école et son centre d'études juives aussi. Alors, comme il y a une histoire des passions françaises dans la pontalogie de Theodore Zeldin, laissez-moi évoquer de mon côté une histoire des passions francophiles où les institutions et les idées sont enchevêtrées. Ma propre motivation pour étudier à Paris était liée à l'EPH et son projet d'étudier les religions dans les conditions de laïcité. Je désirais m'appliquer à l'étude des transformations des religions et des irréligions à l'époque moderne. Alors le peu d'égards que l'historiographie allemande accordait alors à l'époque des confessions et des orthodoxies, l'époque moderne, contrastait vivement avec les prestiges dont jouissaient ici les questions de modernisation et de changement profond dans l'identité juive en particulier. Le recul du religieux, la perte de son exclusivité et la sécularisation, donc tout le récit historique propre aux Lumières, maintiennent, en France, leur légitimité dans les constructions de l'histoire. J'étais particulièrement attiré par l'école hispaniste de Marcel Bataillon, d'I.S. Reva, qui ont abordé l'Espagne par ses marges dissidentes, en évitant le poids des modèles culturels canoniques. Dans les études juives menées en France, même dans les publications très récentes, cette prépondérance de la transformation modernisatrice demeure en bonne place. Quand, par exemple, Alessandro Guetta décrit le judaïsme italien de la Renaissance, il le considère, je cite, « comme un modèle et une préfiguration de la condition juive à l'époque moderne ». Nimrod Gahaton écrit dans une thèse récente sur les séfarades de Bayonne au XVIIIe siècle que l'émancipation, je cite, « n'a pas surgi de nulle part, mais qu'elle est le résultat d'un processus politique complexe qui précéda l'obtention des droits. » 2022. Cette concentration sur la modernité, qui s'inscrit en faux contre les tendances manifestes ailleurs dans les sciences humaines, ne signifie pas un retour à un récit optimiste du progrès. La modernité consiste toujours en une dialectique qui risque de mener aux prisons de Foucault ou du Piranèse, ou bien, pour les Juifs, d'attirer le mécontentement face à la politique intégratrice exigeante, mécontentement dont Pierre Birnbaum a dressé le bilan dans son livre sur Napoléon. La modernisation n'implique pas non plus une transformation linéaire, nettement périodisée. Dans son histoire du livre yiddish, Jean Baumgarten accorde une attention particulière aux, je cite, « questions considérées comme mineures, marginales » et aux faits sociaux peu explorés qui ont participé au renouvellement de la compréhension des débuts de, entre guillemets, l'histoire moderne du peuple juif. Les résultats de cette modernisation juive se définissent d'une manière assez claire, assez univoque, par la scission du sujet. Les dictionnaires des faits religieux de 2019, dont l'article « Judaïsme » Régine Azria, parle de la question de la pluriappartenance, loyauté envers le pays et fidélité aux origines. C'est une analyse tout à fait semblable que débouche l'admirable étude de Dominique Bourrel sur Moses Mendelssohn, sous-titrée « Sans vergogne, la naissance du judaïsme moderne ». Bourrel parle, je cite, « d'une homotimie, une égalité d'honneur entre l'Allemagne et le judaïsme. Cet alliage fondera une véritable modernisation du judaïsme comme de l'Allemagne. » Bourrel insiste sur le contexte singulier de la Prusse, qu'il présente comme un foyer à part des Lumières. D'une manière générale, une des surprises de la production savante en France est la quantité et la qualité des travaux sur les Juifs de l'ère germanophone. Je vois qu'il y a déjà plusieurs parmi vous, par les assistants ici, qui ont publié sur Gershom Scholem. Et je ne crois pas que le judaïsme français suscite un pareil intérêt en Allemagne, où l'on s'instruit tout au plus dans le chat du rabbin. Quand la Clepsydre de Sylviane Goldberg fut traduite en allemand, tout au contraire, en 2009, l'auteur écrit dans une petite préface « Es überrascht und beglückt mich, meine Untersuchungen in der Sprache Goethes und Kafkas in der Hand zu halten. Je suis surprise et contente de tenir en main mes propres recherches dans la langue de Goethe et de Kafka. » La bonne place des Juifs allemands tient certainement au fait que la Wissenschaft est devenue une partie de nous-mêmes, que ce soit en Allemagne ou en France, et que même l'émancipation doit s'entendre comme un dialogue franco-allemand, selon Pierre Birnbaum. Finalement, la littérature porte la mémoire des époques où l'État français se distinguait par sa gestion heureuse de l'immigration. Dans son guide du patrimoine juif parisien, Dominique Gérassé traite la ville non seulement de la perspective de ses bourgeois, je cite, « C'est la ville de la liberté et des droits de l'homme. Paris a accueilli un grand nombre d'intellectuels de ses parias, parmi lesquels des écrivains majeurs, de Heine à Walter Benjamin. » Les frères Pereire et les frères pauvres, les parias, font conjointement la mémoire du judaïsme français. Et l'étude de la présence des Juifs allemands à Paris par Michel Espagne est un des exemples sur lesquels il a construit sa notion de transfert culturel. Les résultats acquis par les chercheurs en études juives ont d'ailleurs failli d'attirer l'attention des collègues des autres champs historiques. L'école des Annales, comme dit Matthias Dreyfus, traitait l'histoire juive plutôt en passant et discrètement. Pour donner un exemple récent de cette rencontre manquée entre les études juives et l'histoire générale, les recherches de Sylviane Goldberg sur les pratiques et les notions du temps dans le judaïsme médiéval n'ont eu aucune présence dans le récent livre Chronos de François Hertog, 2001. Celui-ci limite son sujet de la manière suivante. Ici, l'enquête ne suit que le fil chrétien. Il est clair que sont les prophètes et les apocalypses juives. Il n'y aurait eu ni Nouveau Testament, ni temps chrétien. Mais on partage les domaines. Or, la recherche mondiale en études juives, quel accueil réserve-t-elle aux travaux entrepris en France? Quelques domaines saillissent où les publications des historiennes et historiens français ont eu un impact international. Là est sans doute le legs de l'école des annales, l'anthropologie historique que l'œuvre de Sylviane Goldberg a illustrée. Parmi les livres qui, en traduction anglaise, ont été particulièrement bien accueillis à l'étranger, du moins dans mes propres milieux, je nommerai le livre d'Eviatar Marienberg, Nida, lorsque les Juifs conceptualisaient la menstruation, 2003, le livre de Nathan Wachtel sur la mémoire marane, 2001, ou le petit volume d'Annette Viviorka sur l'histoire du témoignage, 2002. J'ignore si cette tradition de l'anthropologie historique se poursuit jusqu'à présent, métamorphosée ou non, et j'attends avec impatience les éclaircissements que Natalia Mouchnik va nous donner dans le débat final. Un grand prestige entoure aussi les travaux d'érudition paléographique et codécologique qui bénéficient de l'appui des institutions comme le CNRS, l'IRHT et la BNF. À preuve, la grande série manuscrits en caractères hébreux conservés dans les bibliothèques de France, dont 7 volumes ont paru depuis 2008. On y ajoute les travaux linguistiques et liturgiques qui font la célébrité de la France, Olivier Tournier sur les Juifs éthiopiens et leur liturgie, ou Peter Nahon sur les Judéo-Gascons, dont la soutenance en 2020 a été mondialement diffusée. Finalement, la liberté d'expression assez robuste en France semble avoir aidé aux historiens de présenter des travaux significatifs en un chantier particulièrement ingrat et douloureux, à savoir les relations historiques entre juifs et musulmans. Dans mes cours, j'utilise abondamment le volume massif dirigé par feu Abdelwahab Medeb et par Benjamin Stora, « Histoire des relations entre juifs et musulmans, des origines à nos jours », dès 2013, dont la réédition partielle est co-dirigée par Sylviane Goldberg. Stora a aussi dirigé le catalogue de la grande exposition « Juifs d'Orient », ouverte à l'Institut du monde arabe pendant cette année-là, 2021. Il déclare cette exposition, je cite, « comme un outil pour donner la chance de féconder le sens commun du citoyen à propos du contentieux, en particulier entre juifs et musulmans, en fabriquant le compromis qui aidera à tracer les voies de la conciliation. » Cet effort de communication, entrepris par la recherche savante, mais aussi par le biais de l'exposition et du film, illustre la volonté des chercheurs français d'assumer une fonction civique qui me semble plus affirmée qu'ailleurs. Je ne veux pas me rapporter ici au grand public international que certains livres très populaires ont pu atteindre. Pensons au best-seller de Shlomo Zant, c'est un élève de l'EHSS, sur l'inexistence du peuple juif. Mais je pense plutôt d'un public cultivé national qui réserve à des études savantes sur des sujets juifs un accueil chaleureux. Si je parle des séfarades à mon université, il arrive que mon public, mes étudiants, s'intéressent parce que je parle de migration, je parle de femmes ou de clandestinité. Mais en France, si je parle des séfarades, on s'intéresse parce que je parle de séfarades. Autant que séfarade, ce public cultivé est ashkénaze, catholique ou spinoziste, pourvu qu'il ait le goût de réflexion critique. Et mon seul ouvrage de vulgarisation, je l'ai publié en français. Je l'ai écrit directement en français, d'ailleurs. Cette formidable littérature de vulgarisation qui existe en France peut s'exprimer dans des histoires que peut s'exprimer dans des histoires de 1000 pages sur des juifs, le sionisme, Israël et Jérusalem, dans les petits volumes des présences du judaïsme chez Albin Michel, dans les dans des encyclopédies ou dans les traductions de textes les plus divers. Le CERF a commencé une édition très ambitieuse en 9 volumes des textes de la Mer Morte, la bibliothèque de Qumran, et on traduit les textes les plus divers jusqu'au témoignage de la Shoah en français. Quant aux traductions d'ouvrages hébreux classiques, les traductions académiques confluent aux mêmes éditeurs avec d'autres traductions d'inspiration religieuse. C'est très particulier en France aussi. L'internationalisation ne semble pas avoir diminué la demande pour toute cette bibliothèque d'ouvrages français pour le grand public. D'autre part, ces ouvrages sont assez rarement traduits. Leur abondance pourrait même être une des raisons du cliché de la recherche française comme une activité dépourvue de profondeur savante. Pour comprendre la raison d'être de cette vaste littérature plus équitablement, il faut considérer les exigences d'un certain public, la politique proactive des éditeurs, puis les nécessités économiques des chercheurs. Un collègue, auteur de 12 d'ouvrages de grand public, m'a avoué une fois qu'il faisait pour pouvoir payer son loyer. Dans le cas de 2 ouvrages collectifs de Benjamin Stora, on a vu qu'une une motivation importante est le désir d'intervenir dans la formation de l'opinion commune. Prenons par exemple le gros recueil « Les Juifs dans l'histoire » publié par Champvalan en 2011. 900 pages résumant l'histoire juive de l'Antiquité jusqu'au monde contemporain, composées par des meilleurs experts, sans une seule note en bas de page, résumant donc des faits reconnus d'une nouvelle perspective. Les éditeurs de ce volume observent que dans les programmes scolaires, je cite, « nul fil conducteur n'est proposé pour les épisodes épars et divers ». Les plus récents surtout, dont l'expérience a montré qu'ils peuvent susciter chez certains élèves des réactions désarmantes, voire négatives. Cette dernière phrase fait allusion à un autre changement important intervenu dans la société française des dernières décennies. Encore en 1997, Esther Benbassa terminait son histoire des Juifs en France sur une vision tout idyllique, se félicitant de la disparition presque complète de l'hostilité publique contre les Juifs. L'ouvrage du même titre, publié en 2024 par Michel Abitbol, tout au contraire, voit, je cite, « émerger un antijudaïsme d'un genre nouveau, sanguinaire, implacable et sans frontières. » Antijudaïsme dont la description occupe les 20 dernières pages du livre. L'effort des collègues français de parler tant des Lumières et de parler tant au grand public déconcerte quelque peu un lecteur germanique habitué au noble recul de l'érudition. Il faut une certaine connaissance du contexte français pour l'apprécier et même pour découvrir ce qui peut en faire l'intérêt pour un savant qui ne partage pas ce contexte. Cette dialectique entre les études juives comme remède aux maux de la France et un message européen, voire universel, est très bien illustrée, je trouve, dans le colloque sur l'archéologie juive médiévale que Paul Salmona a réuni au Musée d'art et d'histoire du judaïsme en 2010, justement pour présenter les avances des autres pays. Donc je cite des actes de colloque 2011. En France, la méconnaissance de l'importance démographique et culturelle du judaïsme médiéval, comme de sa large répartition géographique, ne favorise pas la prise en compte de la question aux différentes étapes du processus de l'archéologie préventive. L'Espagne ou l'Allemagne sont plus sensibles à leur passé multiculturel. Il est apparu indispensable d'envisager la question, ou la question de l'archéologie médiévale, à l'échelle européenne. En 2022, un deuxième colloque a débouché sur la publication d'un second volume aux éditions du CNRS. Donc, l'effort de Paul Salmona de montrer que la France est à la traîne a produit un vaste ouvrage pionnier qui n'a rien de semblable dans d'autres langues. Cet effort de montrer que la France est quelque peu arriérée a donc eu des effets paradoxaux. Et souvent, le désir d'intervenir dans un contexte domestique, dans un contexte national, et celui d'obtenir la reconnaissance mondiale se contredisent, mais parfois ils se soutiennent mutuellement. Comme Sylviane Goldberg l'a écrit sur la Wissenschaft allemande, je cite, « La pratique historienne demeure ancrée dans les différents contextes dans lesquels elle est étudiée. » Des hommes comme Zuns et Gretz ont été marqués par leur quête de l'émancipation, mais leur œuvre a pu transcender ces conditions singulières et devenir une inspiration jusqu'à ce jour, où, comme dit Sylviane Goldberg, ces deux forment encore le cœur de ce que sont encore les études juives. Cette expérience devrait encourager à ne pas aller jusqu'au bout en substituant le provincialisme par la mondialisation. Le contexte mérite d'être compris et respecté comme le champ d'activité civique, un contexte de milieu humain et des institutions où se poursuit la recherche savante. Dans les circonstances actuelles, ces institutions exigent notre protection contre les menaces qui pèsent sur la liberté d'expression. Et en tant qu'exilé d'Orban, j'en sais une chose ou deux. Mais je serai aussi optimiste et j'affirmerai que l'attention portée au contexte et à ses problèmes particuliers peut justement devenir le point de départ d'un plus grand attrait, même pour ceux que ce contexte ne limite pas. Merci.
Merci beaucoup, Carsten Wilke, pour cette keynote extrêmement vivifiante, et y compris d'ailleurs pour les personnes ici présentes qui ont été citées, et dont les travaux ont été cités. Je pense que c'est effectivement le propre à susciter un certain nombre d'échanges, et j'espère que on aura l'occasion à la suite de cette journée de revenir sur tout ce moment. Je vous propose maintenant, et on est parfaitement dans les temps, donc c'est formidable, aux participants de la table ronde de venir me rejoindre à la table. Donc je vais demander à Dominique Schnapper si elle veut bien se joindre à nous. Jacques Revel est déjà présent, Sylviane Goldberg, Nancy Green, si vous voulez bien venir ici, à mes côtés, pour cette table ronde. Donc, comme vous l'avez compris, comme David l'a indiqué, je vais devoir faire cet exercice extrêmement difficile, sinon impossible, de me substituer à Yann Potin pour la modération de cette table ronde. Je vais d'abord commencer par présenter les participants à cette table ronde, si tant est qu'il soit encore besoin de les présenter. Et je tiens vraiment et très sincèrement à remercier les personnes qui ont répondu présentes, puisque c'est vraiment, je dirais, à la fois un honneur et une grande chance de pouvoir vous écouter. Donc, respectivement, Dominique Schnapper, qui fut un temps ma présidente au musée d'Arrestage Leys, mais donc qui est surtout donc directrice d'études honoraire à l'école des hautes études en sciences sociales, qui est aussi présidente du conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République au ministère de l'Éducation nationale, et beaucoup d'autres choses encore. Jacques Revel, également donc ancien président de l'école des hautes études en sciences sociales, directeur d'études honoraire aussi au sein de cette même école, et historien que je n'ai évidemment pas que je n'ai pas besoin de présenter. Nancy Green, à ma gauche ici, également directrice d'études honoraires à l'école des hautes études, comme je le disais, a eu un rôle tout à fait essentiel, et notamment ce que les archives nous révèlent, et je pense Nancy en parlera, dans ce milieu des études juives à l'école des hautes études, dans les années, voilà, milieu, on va dire, des années 80, sur la décennie 80 notamment. Et puis, donc, à ma droite, évidemment, Sylvain Goldberg, que je ne présente pas. Et voilà. Alors, peut-être rapidement, pour revenir au sujet précis de cette table ronde, donc, qui propose un retour sur ce que on a proposé d'intituler le moment Furet, donc en référence évidemment à François Furet, qui a été pendant de longues années donc président de l'école des hautes études en sciences sociales, mais aussi une des plus grandes figures intellectuelles du second XXe siècle en France. L'objectif de cette table ronde, si vous le voulez bien, c'est chacune, chacun, depuis votre observatoire propre, d'une certaine manière, puisque les noms que je viens de citer, de telle manière, je les retrouve dans les archives qu'on a pu consulter au campus Condorcet. Alors, je sais que Yann Potin, de son côté, puisqu'on en a parlé pas plus tard qu'hier, a pu consulter les archives de la présidence de l'École des hautes études, donc avec d'autres informations auxquelles moi, je n'ai pas eu accès. C'est bien dommage, effectivement. Parce qu'il m'a dit même qu'il avait reçu, il avait pu voir la première lettre de Louis Cohn à François Furet. Voilà, c'est vraiment dommage qu'il puisse pas en parler directement ce matin. Mais en tout cas, toutes ces archives déjà, ce que je peux dire déjà, c'est qu'effectivement, les noms, les personnes qui sont à cette table sont dans ces archives, d'une certaine manière, signent les courriers, les comptes rendus, les procès-verbaux, et donc nous avons ici évidemment des acteurs de tout premier plan pour essayer de comprendre, pour une certaine manière reconstituer le puzzle de ce qu'a été ce moment d'émergence, de réémergence des études juives, donc à l'école des hautes études, et Carsten Wilke a évoqué une autre institution un peu cousine qui est l'école pratique des hautes études, et on sait comment ces deux institutions ont entretenu, je sais pas, une forme de dialogue ou de rivalité au fil de ces années. Peut-être pour essayer de compléter un petit peu et revenir sur ce moment-là, peut-être rappeler aussi comment vous avez perçu comme acteur, d'une certaine manière, donc dans ces années 70-80, à la charnière de ces années-là, comment les différents facteurs ont pu converger, puisqu'il y a à la fois effectivement une dynamique scientifique, et je pense qu'on y reviendra, qui est lié à un phénomène d'internationalisation de la recherche. Alors, on peut regretter effectivement aussi l'absence de Romain Huret ce matin, puisqu'il aurait peut-être parlé de l'importance des études nord-américaines, qui est aussi un champ qui se développe à peu près dans les mêmes années, qui est probablement en lien avec le développement des études juives à l'école des hautes études. Un phénomène aussi où à la fois l'histoire, d'autres disciplines, on a évoqué l'anthropologie historique, la sociologie très certainement, et je pense que Dominique en parlera, prennent part à cette réflexion sur la constitution des études juives en France. Parallèlement aussi, ce qu'on pourrait appeler de manière un peu peut-être facile, une demande sociale. À la fois, je dirais, ce qui dans ces années-là aussi relève d'une vitalité du judaïsme français, de ses institutions, la Fondation du judaïsme français, qui a eu un rôle important, je pense que Nancy y reviendra. C'est aussi une demande sociale plus globale, liée aussi au développement de cercles d'études qu'on pourrait qualifier de communautaires en France, qui abordent la question du judaïsme et d'un autre point de vue que de celui des sciences sociales proprement dites. C'est aussi une mémoire, je pense notamment une mémoire de ce qu'on appelle pas encore la Shoah, mais plutôt la Khurban ou l'Holocauste, si on reprend la terminologie américaine, donc vive, portée par des personnes qui sont encore très actives. Jacques Revel évoque également ce dernier aspect, qui est évidemment la question du génocide et son envers, le négationnisme, puisqu'on est aussi dans ces années-là de remise en question, de manière plus globale, de l'existence des chambres à gaz, etc. Ce qui me fait aussi penser à ce que disait Carsten Wilke sur la, ce rôle civique, d'une certaine manière, peuvent endosser ou veulent endosser les études juives à ce moment-là. Dernier aspect peut-être aussi à prendre en compte, on y reviendra peut-être, c'est ce que j'appellerais, Christophe Prochasson dans sa biographie de François Furet l'évoque aussi, la question d'Israël d'une certaine manière, qui a été aussi évidemment pour François Furet plus particulièrement un enjeu de fascination aussi, d'intérêt très vif, qui s'est manifesté aussi par ses prises de parole dans la presse, hein, dans le France Observateur, Nouvel Observateur notamment. Voilà, donc tous ces éléments-là que je vous mets un petit peu en vrac, hein, mais qui peut-être nourriront la discussion. Et peut-être aussi une question, mais là vous serez, je vous laisserai évidemment libre d'y répondre ou pas, savoir si il n'y a pas une scène primitive aussi, sans la rendre trop importante, mais qui est la conférence Marc Bloch de 1979. Toute première conférence Marc Bloch qui est assurée par Gershom Scholem en 1979. Et savoir si, ou pas, hein, puisque c'est vraiment une question, et là je dirais c'est une question presque que je me pose moi à titre personnel, ça a pu constituer une forme de scène primitive avant que dans les décennies suivantes, les études juives s'installent à l'école. Alors voilà pour un tableau un peu, un panorama un peu général. Je vous propose de prendre la parole successivement. Je donnerai la parole tout d'abord à Dominique Schnapper, puis Jacques Revel, Nancy Green, et puis on poursuivra avec Sylviane à ma droite. Et voilà, et en fonction du temps qui nous restera, on reprendra la parole.
Bon, alors je ne sais pas du tout si j'ai été un acteur essentiel. J'ai plutôt tendance à penser que ce n'est pas le cas. Et que Jacques Revel et Nancy ont joué beaucoup plus de rôles pour une raison fondamentale, c'est que tout ce qui a été évoqué comme les difficultés à faire dialoguer l'histoire juive et l'histoire générale se retrouve encore beaucoup plus forte dans le cas de la sociologie. La sociologie des juifs n'intéresse personne. Elle n'intéresse pas les juifs parce que c'est un point de vue qui se veut aussi objectif que possible et que personne n'aime être assigné et examiné comme un corps étranger. Donc il y a l'histoire, la philosophie, la réflexion identitaire ont tout de suite un écho auprès des juifs eux-mêmes, autant la sociologie en a très peu. Quant aux non-juifs, puisque ça existe, c'est un problème trop difficile, c'est un problème trop compliqué, on n'y touche pas, on l'évacue. Alors, un des grands sociologues du XXe siècle m'a confié un jour que si on était vraiment sociologue, on écrirait le grand livre sur les juifs, mais je précise qu'il n'en a jamais touché un mot. Bon. Donc, il sentait tout ce que ça pouvait avoir. Et donc, par définition, en tant que sociologue, ayant publié en 80 un livre de sociologie des Juifs, en expliquant que j'en traitais comme d'une autre population, j'avais très peu d'écho. La scène était vide, donc inévitablement jouer un petit rôle puisque personne ne sait. Et je voudrais insister sur le rôle de François Furet. On a beaucoup discuté parmi les historiens et les philosophes sur le rôle des structures et des personnalités. Dans ce cas-là, il n'y a aucun doute qu'il y a eu une influence fondamentale de François Furet qui succédait à ce qu'on peut appeler la réticence de Fernand Braudel à l'égard de ce sujet. Et je voudrais en prendre pour exemple le cas de Léon Poliakov. Léon Poliakov a commencé dans l'institution brodélienne comme chef de travaux. Braudel, il avait publié en 51 le Bréviaire de la haine, en 55 son premier tome de l'histoire de l'antisémitisme. Et Braudel lui a expliqué que tout ça n'était pas très intéressant et qu'il faudrait mieux faire de l'histoire sociale et économique. Et du coup, Léon Poliakov a soutenu en 64, sous la direction de Romano, une thèse qui était bien dans l'atmosphère de l'école brodélienne, c'est-à-dire le commerce de l'argent dans les chez les Juifs d'Italie du XIIIe au XVIIe siècle. Et quelqu'un qui m'est proche disait « C'est curieux cette institution d'historien où on trouve que le prix du blé est plus intéressant que l'antisémitisme. » Et Rosel lui a dit très, très clairement que on ne faisait pas carrière à son école des hautes études quand on s'intéressait à l'antisémitisme. Et il est resté chef de travaux à Jacques Le Goff, qui a succédé à Brodel en 72, n'avait pas d'intérêt particulier dans son Saint-Louis. Il y a très, très peu de choses sur les relations entre Saint-Louis et les Juifs, qui sont pourtant, pour nous, et je crois en général, quelque chose d'intéressant. Et c'est l'arrivée de François Furet qui a changé. Et justement, c'est comme ça que j'ai pu jouer un petit rôle, parce qu'il n'y avait rien à l'école. Et pour une école qui avait développé toutes sortes de points de vue extérieurs, de rapports entre les disciplines, de lieux, les études spécialisées, c'était assez frappant. Alors, vous avez évoqué la conférence Solem, qui a été la première conférence Marc Bloch, Furet ayant créé, et je pense sous le contrôle de Jacques, la notion même de conférence Marc Bloch est confiée à Scholem. Et je vous donne juste un témoignage personnel. J'y étais et j'étais assez marginale à l'école, donc je n'avais pas su ce qui avait pu exister comme réaction à ce choix de Furet. Et j'ai eu un sentiment bizarre que je ne me suis pas expliqué et que j'ai compris très longtemps après. C'est qu'il y avait uniquement les Juifs de l'école des hautes études qui étaient venus. Comme c'est un mode de pensée qui n'est pas du tout le mien, je ne l'avais absolument pas perçu sur le moment. Et je l'ai pensé rétrospectivement. J'ajoute qu'il y avait aussi Pierre Bourdieu, qui n'était pas juif, et qui avait beaucoup poussé à cette invitation. Il avait publié un texte important dans Actes de la recherche. Et donc, je mets ça à son crédit. Bon. Alors, à la suite, et sur la position de Brodel, je peux faire état, mais il n'est plus là pour le confirmer, de Joseph Goua. Donc, c'est dans cette situation et l'école s'est transformée. Et je voudrais dire qu'elle était un petit peu à l'image d'une situation plus générale, parce que j'ai regardé, pour vous en dire deux mots, ce qui avait été publié dans la collection Diaspora de Roger Herrera à Kalman-Lévy, parce qu'il y avait les érudits qui continuaient leurs travaux, mais la collection Diaspora était celle qui aurait pu ou dû ou dont on aurait pu espérer qu'elle étende les études juives à la lumière des sciences sociales, pour reprendre le titre de notre réunion. Et c'est très frappant de la collection Diaspora, où il n'y a pas de français. S'il y a un livre d'André Neher, qui est parti en Israël en 68, sinon ce sont des Américains. Et l'histoire des Juifs était très souvent, des Juifs français, était très souvent confiée ou traitée par des historiens américains, non seulement Marcus et Paxton, mais Weinberg, une dame dont non, c'est plus le nom, mais Phyllis Albert, voilà. Et donc, quand on voit cette liste de la collection Diaspora, il n'y a pas de français, pratiquement. Et donc, la position de l'école s'inscrivait dans une situation plus générale. Et donc, on peut penser que cette décision de François Furet, sur laquelle je suis heureuse de pouvoir témoigner, en tout cas, a déclenché une série, a contribué à développer les études juives dont on a fait état dans la conférence d'introduction. Je pense que son rôle a été important. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a commencé par une série d'invitations extérieures, avec le sentiment qu'il n'y avait pas en France les savants du niveau qui convoque François Furet et nous tous voulions donner à cette chaire. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce programme d'invitation extérieure extrêmement enrichissant pour nous tous, parce que moi personnellement j'ai appris beaucoup de choses. toi aussi. avec l'idée que ça permettait de former des futurs chercheurs qui viendraient prendre la relève. Et je crois qu'on peut dire que d'une certaine façon, ce premier projet a été une réussite, puisque nous sommes là aujourd'hui.
Et quelques-uns qui me connaissent savent qu'il n'y a aucune qualification pour parler des études juives, et que si j'interviens dans ce débat, c'est essentiellement en tant que témoin, puisque entre 1977 et 1985, j'ai été étroitement associé à la présidence de François Furet. Je faisais partie de ce qu'on appelle le bureau de l'école, c'est-à-dire un exécutif de 4 personnes qui accompagnaient le président. Et entre nous, tout pouvait se discuter librement, en particulier les projets, en particulier ce qui concerne les études juives au tournant des années 80. Dans la biographie intellectuelle qu'il lui a consacrée, il y a une dizaine d'années, Christophe Prochasson a donné la dizaine de pages qu'il consacre au rapport que Furet entretenait avec le monde juif, et singulièrement avec Israël, un titre qui me paraît significatif. Pensez Israël. Un titre qui fait bien évidemment écho à Penser à la Révolution française, le livre majeur que Furet avait publié en 1978. Et le parallèle me paraît particulièrement bienvenu en ce qui nous engage à réfléchir sur les raison de l'intérêt de François Furet pour ces questions. Cet intérêt est relativement tardif. Au sortir de la guerre, à 18 ans, et plusieurs années avant son engagement communiste, Furet rappelle que selon une lecture largement partagée, qui était aussi la sienne, je cite, « Les Juifs français ne sont pas revenus des camps en martyr juif, mais en martyr français. » Et 20 ans plus tard, dans la première synthèse qu'il a publiée sur la Révolution française, le livre écrit avec Denis Richer, le traitement réservé à l'entrée des Juifs dans la citoyenneté française restait tout à fait conforme à l'historiographie traditionnelle, comme une sorte d'accomplissement des Lumières. Ça n'est en fait qu'au lendemain de la guerre des Six Jours, et après un premier voyage en Israël pour le compte du Nouvel Observateur, que les choses ont changé. Des liens personnels se sont noués, alors en France et en Israël, entre la France et Israël. Et des figures aussi différentes que Raymond Aron, Jean Daniel, Roger Erin, dont on vient de parler, ou encore Claude Lanzmann, n'ont pas cessé de nourrir sa réflexion tout au long des années 70. Je me souviens d'avoir longuement discuté avec Furet lors d'une première rencontre du film de Lanzmann « Pourquoi Israël ?» qui, comme le point d'interrogation l'indique, poser plus de questions utiles, souvent brutales, à la manière de Lanzmann, parfois vertigineuses, qui n'apportaient de certitude. Et de fait, on a beaucoup insisté sur ce premier voyage en Israël, mais je pense que, comme souvent chez Furet, les lectures, un monde juif de papier, et même un Israël de papier, autant de côtés, je souscris tout à fait à ce que Dominique vient de dire de la collection Diaspora, dirigée par Herrera. Alors, du cheminement de cette réflexion, je vais laisser une version élaborée dans une série d'articles publiés dans l'Observateur entre 76 et 81, qui ont été repris et refondus dans un essai sur les Juifs et la démocratie française, dans son recueil L'Atelier d'Histoire, publié en 1982. Et il vaut la peine de s'y arrêter un instant. À partir de travaux qui étaient alors récents, Patrick Girard, Michael Maris et Paxton. Il est conduit à produire ces distances d'avec la version heureuse et linéaire de l'entrée des Juifs de France dans la citoyenneté. Et surtout, l'histoire de leur assimilation tout au long du 19e siècle avant le coup d'arrêt de l'affaire Dreyfus. Je cite, dans cette chimie instable du communautaire et du religieux qui fabrique au 19e et 20e siècle le destin du peuple juif, rien n'est simple que l'élection de l'aise qui accompagne au long du temps. Le destin du peuple juif. La formule fait voir à quel point la perspective de Furet est en train de changer. Il s'en est expliqué dans la préface du même ouvrage. Je cite, « Il me semble que je n'ai pas cessé de m'intéresser à la référence juive et à la référence américaine, comme à des instruments heuristiques de comparaison. Il y avait un ancrage, parce qu'elles avaient d'européens, et pourtant un point central extérieur à mes habitudes d'esprit, puisqu'il avait été construit hors d'Europe, et même contre elle. Il s'agit donc d'une exigence comparatiste, pour l'historien de la Révolution, qui se proposait alors de dissoudre l'exceptionnalisme américain ou juif grâce aux sciences sociales, sous la formule un peu bravache qu'il a longtemps affectionné. Et puis voici qu'il découvre, je le cite, que la question juive, comme on disait naguère, se complique. Elle se pose désormais au présent. Le présent, c'est bien entendu l'ombre portée du génocide, mais elle se pose aussi à la lumière du fait israélien, celui d'une fondation nationale, qui se réclame à la fois de l'idée socialiste d'une société nouvelle et de la croyance millénaire au retour, mêlant dans chaque citoyen ce qu'il y a de plus moderne et ce qu'il y a de plus archaïque. Fin de citation. C'est cette tension inscrite au cœur du projet sioniste qui va désormais mobiliser sa réflexion. Significatif que Furet, agnostique, sans vraie culture et sans empathie religieuse, et moins encore de connaissance de la tradition juive, se soit lancé dans la lecture de Gershom Scholem, des ouvrages en tout cas qu'il pouvait lire en français ou en anglais. Renouvelant d'une certaine façon le geste de Scholem, issu de la moyenne bourgeoisie berlinoise assimilée et qui a choisi d'émigrer en Palestine en 1923 pour s'y consacrer à l'étude de la tradition dans ce qu'elle a de plus ancré, de plus irréductible, la spiritualité, la mystique, le messianisme. Scholem, écrit Furet, c'est parce qu'il est l'enfant révolté d'une expérience historique juive fondée sur le culte de la modernité de refoulement de la tradition que le mouvement national juif véhicule, ressaisit et renouvelle, à travers les catégories politiques modernes, un très ancien héritage culturel. Ce que les Juifs ont en commun, et qui explique le moins mal leur extraordinaire survie et leur ambition nationale de retour à Sion, est une anthropologie religieuse. Tout Scholem tient dans l'exploration historique de cette proposition. Et je n'ai plus besoin de rappeler que c'est à Scholem que François Furet a demandé de donner la première conférence Marc Bloch en 1979. C'est le cheminement et l'approfondissement de cette réflexion qui explique les choix qui ont présidé au lancement d'un programme d'études juives en 1980. À quoi il faut sans doute ajouter une urgence plus circonstancielle. Ces années ont aussi été celles d'une effervescence révisionniste et négationniste qui s'inscrivait traditionnellement à l'extrême droite, mais qui a alors trouvé de nouveaux échos à l'extrême gauche. L'effervescence que Karina Dmaké dénonçait et démontait dans les assassins de la mémoire. Alors quoi faire et avec quoi? Il me paraît significatif que l'un des premiers noms sollicités par Furet pour donner les enseignements réguliers était celui de Stéphane Moses, dont l'itinéraire évoque, à 40 ans de distance, celui de Scholem, dont il est par ailleurs devenu un proche. Né à Berlin en 1931, dans une famille qui a émigré en France en 1937, normalien, agrégé d'allemand, enseignant à Nanterre, il a choisi de partir en Israël à la fin des années 60. Il y a rejoint l'université hébraïque de Jérusalem et y a mené des recherches sur ce que traditionnellement on appelait la synthèse judéo-allemande et dont il a souligné la dimension irréductiblement juive dans ses travaux sur Zweig et sur Walter Benjamin, entre autres. L'étude, ce qu'il a nommé la dissimulation par opposition à l'assimilation. L'autre invité récurrent de ces premières années du programme était plus attendu. C'était Shaul Friedland, lui aussi familier de la France à d'autres titres, et que beaucoup d'entre nous connaissaient. Il consacrait chaque année un cycle de séminaires à l'histoire et à l'historiographie du génocide. Ils sont venus d'autres invités, dont le jeune Maurice Kliegel, alors enseignant à Haïfa, dès le milieu des années 80, et puis, un peu plus tard, Yosef Haïm Yerushalmi, dans les années qui ont suivi, la retentissante traduction de Zahor, et qui devait y enseigner son livre sur le Moïse de Pharaon. Là-dessus, Sivian, Nancy et d'autres ont mieux que moi l'occasion de commenter la sous-compétence de sa réception française. Je rappelais ici un nom qui était prononcé par Vatien Doeffel tout à l'heure, que si ce programme a été largement soutenu par les ressources propres de l'école, il a aussi bénéficié du soutien de la Fondation du judaïsme français et de la Société d'études juives, en particulier à la personne de Louis Cohn, qui a été pendant toutes ces années un partenaire attentif, inventif et d'une exceptionnelle générosité. Je vais terminer avec quelques remarques sur ce programme dans ses premières années. D'abord pour insister sur le fait qu'il s'éloigne du double intérêt personnel de Furet pour le très contemporain, l'expérience israélienne, et le plus ancien, la revendication de la tradition. Quitte à laisser de côté bien d'autres aspects qui auraient pu intéresser un public dont il faut rappeler qu'il n'était alors, j'ignore ce qu'il est aujourd'hui, pas toujours préparé pour bénéficier de l'enseignement érudit. Deuxième observation, et déjà faite Dominique, et c'est pour souligner l'appel résolu à des enseignants hors de France, avec la conviction qu'il y avait un retard à rattraper dans toutes les dimensions des études juives. Et c'est la même conviction, par exemple, qui a présidé à la préparation du colloque international de juillet 82 sur l'Allemagne nazie et le génocide juif, sous la présidence conjointe de Raymond Aron et François Furet. Ce choix résolu chez Furet a eu le mérite d'ouvrir ce programme à des collaborations de qualité exceptionnelle. Et jusqu'à un certain point, très au-dessus de ce qu'on pouvait en espérer. Il a aussi eu, il faut le reconnaître, pour conséquence de laisser pendant ces années les études juives hors sol dans l'école. Non seulement il a fallu une dizaine d'années avant que les premiers recrutements de l'école aient lieu, Nancy, Siviane et Maurice Kiegel, mais un certain nombre de collègues de l'école qui auraient pu et sont dû s'inscrire dans ce programme en raison de leurs intérêts et de leurs travaux, ils sont restés extérieurs et on peut le regretter rétrospectivement. Je pense à Pierre Bidal-Naquet, sous le double aspect de ses interventions au présent, mais aussi de ses recherches sur l'historiographie juive ancienne, ses travaux sur Tobie Joseph. Je pense à Dominique Wedis et l'approche sociologique de la citoyenneté qui traverse l'œuvre, ou encore à l'enquête de deux historiens qui nous sont proches, Vicente Valassi et Nathan Rachtel, qui, dans ces années, enquêtaient sur les mémoires juives, mémoires ashkénazes et mémoires séfarades. Merci.
Merci infiniment, Jacques Revel, à la suite de Dominique Schnapper, pour cet éclairage extrêmement précieux sur ce moment de genèse des études juives à l'école et le lien évident, déjà rappelé par Dominique Schnapper, mais avec les centres d'intérêt de François Furet. Je vais maintenant laisser la parole à Nancy Green.
Merci, j'étais heureuse quand on m'a demandé de participer à une journée d'études sur l'histoire des études juives en France. J'ai dit oui, évidemment. Et je remercie aussi Carsten Wilke pour une réflexion sur l'historiographie croisée. Puisque aussi, bon, venant des États-Unis, j'étais très contente d'être recrutée à l'École des hautes études, n'est-ce pas? Le timing était bon, mais la réflexion sur la façon dont les études juives en France peuvent être vues d'ailleurs, ça correspond aussi à des questionnements sur d'autres domaines, comme a été évoqué que peut-être Romain Oyoré aurait pu parler des études américaines en France. Mais aussi, je peux témoigner des historiens de la France aux États-Unis ont aussi des questionnements sur les façons dont les travaux d'un autre endroit sont perçus à l'étranger ou au lieu même où ils ont qui est l'objet même de leur travail. Donc, je vous passerai les plaintes et les craintes parfois de mes collègues américains qui font l'histoire de la France et trouvent qu'ils sont insuffisamment traduits en français. Ça, c'est un autre sujet. Mais ces historiographies croisées, je pense, sont un sujet en soi très intéressant. Donc, pour moi, la création de ce programme et des études juives en France, j'étais là au bon moment, je dirais, mais c'était aussi... pour moi, ça fait partie de tout un mouvement, enfin un moment des études, on va dire aux États-Unis, on va dire ethniques. Les années 60-70 sont une période où une espèce de multiculturalisme soft va inciter des universités à mettre en place des programmes concernant tel ou tel groupe et les études juives. Aux États-Unis, j'ai assisté, j'étais étudiante dans un des premiers cours de George Mosset à l'université de Wisconsin au milieu des années 75. Mais c'était une première, c'était vraiment le début de aussi des chercheurs qui ne s'étaient pas forcément avaient fait leur carrière sur les études juives, mais qui ont proposé dans différentes disciplines de mettre à l'affiche un cours qu'on pouvait prendre, avoir des crédits, etc. Mais c'était nouveau. Donc c'est pareil pour la France. Donc peut-être avec un petit décalage avec les États-Unis, mais c'est cette période qui incite, qui s'intéresse en fait aux minorités, aussi en France, les minorités des langues provençales, etc. C'est vraiment un moment aussi, une contextualisation, je pense, qui est aussi important. Donc, c'est plus large. Pour moi, et c'est peut-être par anglicisme, études juives, Jewish studies, pour moi, c'est quelque chose aussi, une définition très large qui, dès le début, pour moi, était naturellement liée aux sciences sociales. Ça pose la question, la grande question, est-ce que c'est juif avec un grand J ou un petit J? Donc qui se pose en français mais pas de la même façon en anglais. Mais comment faire et quel type d'études juives voulons-nous faire? J'ai eu la chance donc d'être recrutée grâce aux efforts de et la le soutien de François Furet, Jacques Revel et Dominique Schnapper. Donc une représentante de cette nouveauté déjà aux États-Unis des études juives, mais dans une perspective d'histoire sociale qui était la mienne et qui dans la lignée aussi de Salomé Baron était une étude qui concernait la communauté juive et dans son entière histoire et qui n'était pas comme Baron avait dit, c'était pas une histoire, on pouvait faire une histoire qui n'était pas seulement larmoyant de l'histoire juive. Donc ceci dit, évidemment l'histoire juive comporte beaucoup de larmes aussi et qu'on a pu inviter et avoir tous ces aspects dans les invitations des premières années. Donc moi j'arrive là, je dirais, et c'est bien aussi d'avoir rappelé la cinquième section, le PHE, il y avait évidemment le travail de Blumenkranz qui avait été très important, Gérard Naon, et puis ce renouveau dans les années 70, pour moi, les références, c'était le livre de Dominique, Juif et Israélite, qui est paru en 1980. Et il y avait aussi le moment de l'ancien Finkielkraut, si on peut dire, du Juif imaginaire qui est paru en 1983. Donc là aussi, c'était des moments qui se créaient. Et puis, il y avait la collection de Pierre Birnbaum, très bien secondé par Eric Vigne, de la collection chez Fayard. Et dans l'année 84-85, Pierre Birnbaum, il a publié le livre de trois Américains, Richard Cohen, Les carnets d'un témoin, le l'ouvrage fascinant sur Raymond, le carnet de Raymond Raoul Lambert pendant la guerre. Le livre de Paula Hyman de Dreyfus à Vichy sur l'histoire des Juifs en France, et puis mon livre qui a été traduit sur le plateau, qui a été traduit à ce moment-là. Donc en France, commencer à se structurer, à s'intéresser, et aussi cet intérêt de quelqu'un comme Pierre Birnbaum, qui en fait était sociologue, comme Dominique était sociologue, et qui commençait à s'intéresser à une question des éléments de l'histoire ou de la sociologie des Juifs. Alors, ce qui a permis, donc si j'ai compris, et je serais très contente de voir la lettre de Louis Cohn à François Furet, j'avais donné le tuyau pour chercher, parce que est-ce que c'était l'offre ou la demande qui a créé la possibilité que la Fondation du judaïsme français, je suis très contente qu'ils ont aussi porté leur rapport encore aujourd'hui pour cette journée, comment est-ce que, parce que ça entre dans tout un autre débat, comment sont structurées et aussi aux États-Unis financées les études juives par le mécénat, par les organisations, et on a eu la grande chance non seulement d'avoir l'apport de cette fondation, mais effectivement, comme l'a dit Jacques, d'avoir, et Dominique l'a connu aussi, d'avoir eu la présence de Louis Cohn, qui était un homme formidable, très, très, extrêmement gentil, et qui avait expliqué, d'ailleurs, à la fin, du financement du programme, et je ne sais pas si ça a duré plus de 5 ans, peut-être 10 ans, parce qu'au moment de la transformation après, mais comme il disait, mais les fondations propose certaines choses et puis il tourne à d'autres choses aussi. Donc il y a cette fragilité aussi du mécénat qu'on peut rappeler. En tous les cas, donc grâce à ce moment Furé et avec tout l'apport de Jacques et puis de Dominique, j'ai eu la chance d'être donc nommée pour faire le travail d'organisation et qui pour moi c'était un plaisir et puis on a beaucoup appris, Dominique, d'avoir tous ces invités qui ont pu venir donc à l'école. Et donc j'ai photographié mal les premières affiches du programme. Alors celui-là, donc c'est la première année où on a fait l'affiche, donc on ne voit pas très très bien, mais les invités de cette année-là, vraiment ça faisait vraiment un programme en soi qui était formidable. George Moisey, donc que j'avais connu à Madison, à Wisconsin, Zeb Sternel, Ezra Mendelsohn, Robert Wistrich, Sal Friedlander, Michel Abitbol. Déjà, de la première année, Yosef Yerushalmi. On peut voir un peu à droite, Roland Gottschall, moi-même, Alain Dickhoff, Victor Caradi, qui a intervenu plusieurs fois, Michael Louis, Joseph Schatzmiller, Maurice Krigel déjà, et Stéphane Moses. C'était, pour moi, c'était une année absolument formidable. J'avais la tâche non seulement d'accueil, parfois je faisais des soirées, mais aussi de parfois aider tel ou tel Yerushalmi qui n'était pas content de la machine à café dans l'appartement où il s'était. Je faisais un peu de tout, c'était un plaisir. Et puis c'était un grand apprentissage aussi dans les domaines qui n'étaient pas les miens, de pouvoir accueillir tout le monde. Voilà, donc ça c'est la première année. Assez tôt, donc on a eu, et donc c'était ça l'intérêt d'avoir toute cette brochette des vedettes qui venaient de et principalement des États-Unis ou d'Israël. Aussi, il y avait des forces vives en France, et donc les affiches, donc je les ai pas toutes ici. Je dirais d'abord qu'il y avait donc une commission qui sélectionnait en fait. Jacques et Dominique évidemment étaient parmi ce groupe, mais aussi Nathan Bachtel était impliqué dès le début. Charles Amiel qui a aussi fait des séminaires pendant longtemps. Lucette et Villanaké étaient dans la commission. Je ne sais pas, je me rappelle pas exactement de quelle manière tout le monde a participé. À la sortie de son premier livre de mémoire, j'ai voulu, mais on n'a pas pu se joindre, demander à Pierre Nora ce qu'il en pensait, parce que il n'était pas concerné, mais comme il a un chapitre dans ses mémoires sur son rapport à cela, j'aurais voulu savoir un peu plus. On n'a pas pu se joindre. Donc, il y avait aussi pour l'organisation Laurence Potsever. Laurence qui était d'une grande aide et qu'avec elle, on a aussi tous les deux fait un séminaire ensemble pendant ces années. Mais c'est pour souligner donc les premiers, donc à la fois les gens à l'école qui s'intéressaient à organiser ce programme, aussi d'autres qui sont à Paris, qui ont pu participer dans le programme en faisant des séminaires, parfois des séminaires annuels, parfois des séminaires d'un mois ponctuel. Donc Maurice Krigel qui était à Haïfa, mais qui venait régulièrement faire des séminaires d'un mois. Alain Dickhoff, Caradi, j'ai mentionné, Michael Louis qui était sur cette première année. Et cette année, donc on appelait comme thème des Lumières au génocide. La deuxième année, j'ai pas l'affiche ici, j'en ai juste celui-là, ça serait l'année de la Révolution française. Donc avant ça, une autre personne qui venait, Yovel, Moses est revenu, René Poznanski, dès 87-88, tu es sur le programme, je l'ai retrouvé, Jean Baumgarten encore, Maurice Krigel, donc deuxième année, et aussi, on ne peut pas oublier Alex Derjanski, tantôt invité par le MSH, tantôt par nous, donc qui aussi qui faisait des séminaires dans le cadre du programme. L'autre affiche donc qu'on peut voir, c'était l'année de la Révolution française et c'était aussi un moment inoubliable quand Robert Badinter est venu nous expliquer comment lui il voyait et avec sa perspicacité de juriste comment il a vu les débats pour l'émancipation des Juifs pendant la Révolution française. Au détour d'une phrase, il a dit comme il est allé aux archives nationales et on lui a permis de voir certains documents que nous autres n'aurions pas pu voir quand même. Donc, c'était l'avantage d'avoir un certain poids qui faisait il décrivait une recherche qui nous laissait des autres un peu jalouses. François Furet et Rana Levy sont aussi intervenus cette année-là. Rita Hermon-Belot, qui est restée donc quelqu'un à l'école. Yehoshua Shalmi était là. Arthur Herzberg. Oui. Et j'ai le souvenir, mais j'ai personne pour me le confirmer, mais j'ai le souvenir d'une soirée chez moi où Yehoshua Shalmi et pas Herzberg, c'était peut-être l'année où Hilberg était là. Et ils étaient tous les deux chez moi. Et Yehoshua Shalmi, qui fumait beaucoup, il a allumé ses cheveux, on a pu quand même le sauver, c'était pas gravissime. Donc il y a eu des moments de rencontrer ces personnes qui étaient des grandes vedettes du domaine et c'était un plaisir intellectuel de accompagner, d'écouter et d'entendre ces intervenants. J'ai marqué à un moment donné dans un papier que c'était au moment en 1990 où moi j'avais passé la main à Sylvie, que nos fidèles étaient Maurice Krigel, Stéphane Moses, Joseph Schatzmiller, Avraham Yudovitch qui est venu au moins une ou deux fois, et évidemment Yehoshua Shalmi et Yovel. Mais il y a des questions que je ne comprends pas, parce que sur ces premières affiches, je ne trouve pas les conférences de Amos Funkenstein. J'ai demandé à Pierrine qui le connaissait mieux que moi, et je sais qu'il est venu, on sait qu'il est venu, et donc maintenant je suis en train de me dire qu'il faut faire un complément dans les annuaires de l'école pour voir s'il y a des personnes qui étaient invités, mais pas sur le programme, mais je ne sais pas pourquoi ils ne seraient pas sur l'affiche. Donc, il y a quelques questions qui m'interpellent. D'autres locaux, si je peux dire, outre Amiel, Derjanski, Karadi, Boretz, en 2000, a fait une apparence sur l'affiche. J'ai dit Jean Baumgarten qui était présent et qui était aussi important pour le groupe d'études juives. Et c'était Alessandro Guetta aussi. Le groupe, c'était un groupe, on était un groupe informel et puis on s'interrogeait. Aussi, ce qui était bien dans ces premières années jusqu'à aujourd'hui, deux choses qu'il faut souligner qui sont la marque de fabrique de l'école des études, c'est l'interdisciplinarité et l'internationalité. Donc, il y avait effectivement les possibilités matérielles d'inviter tout ce monde, mais avec aussi la présence des chercheurs en France, et puis aussi l'interdisciplinarité qui était reflétée dans le programme et puis qui a pris différentes dimensions selon les époques et les personnes qui organisaient ça. Donc, Sylviane apparaît pour la première fois en 1988 pour une première séminaire. Et puis, en fait, comme elle sera élue en 1990, et moi, j'allais de plus en plus vers justement, on parlait de l'importance heuristique de la comparaison. Et dans mon cas, peut-être c'était pour Furet, c'était une façon de questionner, à partir de la Révolution française, de questionner l'histoire des Juifs. Pour moi, c'était à partir de l'histoire des Juifs de questionner qu'est-ce qu'il y avait de similaire et différent dans les expériences des tailleurs du monde entier, mais aussi de poser la question des migrations en perspective comparée, ce que j'ai fait beaucoup par la suite. Si je peux juste dire peut-être une autocritique du début, c'est qu'on avait, c'est vrai, beaucoup plus de Ashkenaz que de Sepharad représentés dans les interrogations. Donc ça, j'accepte. Et puis, on a essayé de pallier. Mais il y avait quand même des... il y avait une année déjà en... déjà l'année... Ah oui, il y avait quand même en 1991-92 un cycle de conférences sur le judaïsme ibérique. Donc, c'était la première fois qu'on a mis ça. Quand même, c'était un thème important. Donc, je termine avec l'année 1990. J'ai continué à faire un séminaire à l'école dans les études juives pendant longtemps, avec aussi Laurence Potsever. Donc, on a allié histoire et anthropologie. Et puis, grâce à l'élection de Sylviane comme maître de conférence en 1990, j'ai pu passer la main, l'organisation et même la création physique des affiches, c'était pas rien. Donc, j'étais assez contente de pouvoir céder cette tâche. Maurice Krigel, qui était élu directeur d'études en 1995, et on voit les statuts différents des gens à travers des affiches. Donc, lui, à ce moment-là, je termine avec ça. Le programme, comme on l'appelait, est devenu un centre. Et donc, c'était aussi une autre étape dans la structuration des études juives en France et à l'École des études. Merci.
Merci beaucoup, Nancy Green. Ces affiches sont un peu vertigineuses pour, je pense, un certain nombre d'entre nous ici. Bon, la transition est toute trouvée avec la personne dont le nom apparaît effectivement ici pour la première fois sur cette affiche du programme. Donc, je laisse tout de suite la parole à Sylviane Weber.
D'abord, je me dois de remercier évidemment à la fois les organisateurs, les participants. Je dois dire que de mon point de vue, je trouvais que c'était vraiment l'occasion de reposer la question des études juives et de reposer la question des études juives en France. Alors, l'historique est extrêmement important et le moment Furet aussi est extrêmement important parce qu'il nous permet de nous demander si un moment est quelque chose qui peut trouver une pérennité ou pas, ou si c'est juste un moment. Et je vous remercie vraiment beaucoup pour cet historique. Comme Nancy vient de le montrer, moi, j'étais pas dans l'image au début. À vrai dire, au début des années 80, moi, j'étais tout juste étudiante et je n'apparais qu'au milieu, donc probablement sur l'affiche. Mais entre-temps, je dois dire que j'ai été un peu étonnée en entendant les citations qui ont été faites de mes travaux des années 90 déjà, en citant notamment Olam et le travail sur les études juives en France, parce que moi j'avais préparé une petite introduction et je me dis, mais au fond, est-ce que les choses ont changé ou pas du tout? Donc ça permet complètement de reposer la question du moment, qu'est-ce que c'est un moment? Alors, on va revenir sur quelques-uns de ces éléments, mais je vais quand même repartir sur ce que j'avais un petit peu préparé. Et ça partait en fait de la question « Pourquoi est-il si difficile de parler des Juifs en classe ?» C'est la question à laquelle il m'a été demandé de répondre au cours d'une intervention que je n'ai pas encore faite, mais que je dois faire incessamment sous peu, pour l'Académie de Créteil. Alors, cette question... j'avais effectivement commencé à la creuser et alors je crois que c'est toi, Mathias, qui a retrouvé la citation de Olam. Waouh, c'est vraiment l'archéologie de l'écran, je dois dire. Et je posais en disant pourquoi est-il si délicat. Alors j'utilisais le mot délicat et là, en fait, l'académie me demande d'utiliser le mot difficile. Enfin, je crois même qu'ils avaient utilisé le terme impossible lors de la demande qui m'a été faite, et j'ai modéré un petit peu le titre en disant difficile. Alors, est-ce qu'il s'est passé vraiment des choses? À voir le nombre de gens qui figurent dans cette salle, je me dis oui, des choses ont avancé, les études juives ont été instituées, mais est-ce qu'il ne faudrait pas continuer à s'interroger plus avant aujourd'hui sur les raisons qui ont permis qu'à ce moment-là précis, et je pense que Furet a vraiment été le catalyseur de ce moment-là, mais il était en même temps le reflet de choses qui se passaient alentour, à la fois dans les milieux scientifiques et puis dans les milieux peut-être non scientifiques, ce qu'on peut caractériser ou résumer sous le fait d'une demande sociale, comme ça a été mentionné précédemment. Mais je crois qu'il y a aussi autre chose qu'il faudrait peut-être prendre en compte, c'est que ces années-là sont alors aussi un moment, alors j'utilise le mot moment parce qu'il est vraiment très commode, c'est une temporalité qui est précisée par diverses constellations, donc de tout ordre, hein, on peut les préciser, mais si on regarde simplement ce qui se passait au niveau de l'histoire, ce sont les années où les Français ont commencé à se regarder et à regarder l'histoire proche. C'est le moment où, à la suite des premières grandes offensives de révisionnisme, les écrits de Forisson, on a commencé, alors on a fait venir de l'étranger effectivement les chercheurs qui travaillaient déjà sur ce qu'on n'appelait pas encore la Shoah d'ailleurs, mais l'époque Vichy, la collaboration, les résistances. C'est le moment où les historiens ont également été appelés à témoigner dans les tribunaux. Il y a eu quelques procès retentissants à cette époque. Alors, est-ce que ce regard que les Français ont commencé à porter sur leur propre histoire aurait-il joué à ce moment-là un rôle absolument essentiel et fondamental sur la possibilité d'émettre le mot juif? Et j'insiste sur le mot juif parce que j'ai également épluché tous les programmes que j'avais à ma disposition à la maison. C'est-à-dire, alors ça c'est déjà, ceux que j'ai là, ils sont déjà pas mal parce que les autres, je les ai pas emmenés, ils sont en loc. En fait, c'était des tout petits fascicules qui portaient sur les enseignements et programmes de l'école, et il y avait un deuxième fascicule, ça va permettre de répondre à la question qu'avait posée Nancy, qui était les conférences et les enseignements complémentaires. Donc il y avait deux fascicules, et les enseignements étaient répartis entre enseignement officiel, enseignement, le mot juif n'apparaît nulle part, pas. Alors j'ai regardé 81, 82, 83, pas de mot juif. J'ai cherché chez Nancy, en fait. Et le mot juif apparaît pas dans l'intitulé, mais dans la description de ton séminaire en 84, je crois. Et c'est la première fois, alors qu'avant tu donnes déjà des séminaires, que le mot juif apparaît dans le descriptif. Le premier qui mentionne le mot juif dans l'intitulé, c'est Victor Carati. Et c'est, alors je l'ai noté, c'est peut-être en 85. Par contre, effectivement, après, à partir du moment où le programme est institué, donc grâce au financement, apparaissent donc les affiches que Nancy a montrées. Et là, donc il y a le programme des enseignements et séminaires, il y a encore deux volets. Il y a aussi, pour cette année-là, mais je ne l'ai pas emmené, le programme des complémentaires où figurent certains de nos invités. Et alors, il y a un autre élément qu'on a oublié de mentionner, et je dois dire, je suis assez confuse, j'ai oublié le nom, mais il y avait le gestionnaire de la MSH qui a joué un rôle extrêmement important aussi. Oui, dans la...
Meunier, non,
non, non, non, de la MSH.
Ah, de la MSH, oui.
Aymar, absolument. Aymar, ah oui. Ah ouais, Maurice Aymar. Maurice Aymar nous a permis de financer des voyages, nous a donné des salles et nous a permis aussi d'avoir des noms. Et quand on regarde les intitulés, d'ailleurs, il y a une grande variation parmi nos invités. Certains sont des professeurs à l'étranger, certains sont directeurs associés, certains sont professeurs invités. Donc, il y a vraiment de tout. Et en fait, cette diversité reflète aussi le niveau des financements, je dois dire. Financement, par la Fondation du judaïsme français, financement par la MSH et financement par l'école. Donc, il y avait ces trois-là qui se reflètent un peu dans les intitulés de nos invités. Mais donc, cette lecture des fascicules m'avait frappée par l'entrée en force, donc, dans l'année 86-87, par la déclaration. Alors, je pense que c'est Nancy qui l'avait écrite. Je vais vous la lire, parce que là, on s'installe vraiment dans la durée. Le programme d'études juives comporte un ensemble d'enseignements coordonnés qui permet aux étudiants de préparer, dans le cadre du DEA Histoire et Civilisation de l'école, une option spécialisée en histoire juive.
C'était quelle année ?
Ça, c'est la première année où ça apparaît, 86.
Oui, c'est ça.
Tu as tourné l'affiche. Oui. Et tu ajoutes, chaque année, les enseignements aborderont une ou plusieurs questions dans les domaines suivants. Le judaïsme traditionnel, les cultures juives 19e, 20e siècle, les communautés juives en Europe, des Lumières au génocide. Et ensuite, bon, il y a les inscriptions pour l'année en question. Mais l'année d'après, donc 88-89, il n'y a plus qu'un seul fascicule qui comporte à la fois les enseignements complémentaires et officiels. Et donc, du coup, ça devient plus facile de retrouver qui est quoi, et on sort, en tout cas au niveau des études juives, de cette espèce de flou qui, quelquefois, suscite des interrogations sur la participation des uns et des autres. Donc ça, c'était pour répondre aux questionnements que tu étais posé. Maintenant, je vais conclure en retournant à la question par laquelle j'avais commencé. Alors, est-ce que ça a changé depuis les années 80? Est-ce qu'on peut dire juif tranquillement ou pas? Est-ce que il existe une dichotomie telle entre l'enseignement supérieur où aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait en France dans les années 80, il existe des enseignements sur l'histoire, la philosophie, la sociologie des Juifs dans pratiquement toutes les universités. Je crois qu'il serait difficile, enfin on doit bien pouvoir en trouver, mais je pense que il n'y a pas grand nombre d'universités en France où il n'y a pas un enseignement quelconque qui porte sur les Juifs. Laura, tu pourrais en parler aussi à l'occasion. Hein. Donc, les choses se passent au niveau de l'enseignement supérieur, mais on ne peut plus parler des Juifs à l'école, où on n'a jamais pu en parler. Est-ce que les choses ont changé ou pas? Et peut-être que la journée d'aujourd'hui permettra de répondre.
Merci beaucoup, Sylviane.